Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Noël. Et oui, on est déjà début octobre et dans le jeu vidéo, c'est la période faste qui commence. Donc, on va essayer de faire un petit point sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines, parce que Noël se termine par contre en novembre dans le jeu vidéo. On parlera de Castlevania Lord of Shadow, le jeu de la semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net, évidemment. Et on terminera par une petite surprise. Mais, chers auditeurs, vous n'y êtes pas pour rien. Donc merci déjà par avance à vous.
Silence on joue participatif.
Voilà, c'est Silence on joue 2.0, chers amis. Et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément.
Bonjour.
Et Patrick Elliot de Rogamer.fr, de retour, enfin. Voilà, t'étais pas là la semaine dernière.
Si oui, mais bonjour Erwan.
Bonjour Patrick. Voilà, on commence avec toi Clément, avec World of Warcraft.
World of Warcraft, le MMO le plus connu et le plus utilisé au monde, qui est sorti en 2005, si je ne m'abuse.
Tout à fait. C'est exactement ça.
Merci Patrick. Et là, qui donc
sur PC, faut le souligner.
Sur PC et Mac. Et Mac, et voilà. Et qui vient d'atteindre aujourd'hui les 12 millions de comptes actifs dans le monde. Alors c'est énorme, 12 millions de comptes actifs.
La news en tant que telle m'avait donné parce que je commençais à me persuader que enfin World of Warcraft diminuait.
C'est vrai que ça fait très longtemps que Blizzard n'avait pas communiqué sur son nombre de joueurs actifs. Je crois que la dernière fois c'était il y a quelques mois quand même déjà, et c'était 11 et quelques millions. Donc ça veut dire que quand même ça se tasse, ça continue d'augmenter mais doucement.
Voilà,
doucement.
C'est l'augmentation qui diminue.
Exactement.
Voilà.
Pour faire simple. mais ça reste quand même une manne financière, on l'imagine, hallucinante, parce qu'on va dire que c'est plus, en tout cas, c'est en moyenne plus de 10€ par mois par compte.
Peut-être moins dans les pays comme la Chine.
Voilà, mais globalement, on peut dire 10€ par mois par compte, donc ça fait quand même 120 millions d'euros.
Alors, je pense que le jeu est rentabilisé.
Le jeu est plus que rentabilisé. Voilà. Et donc, on a aussi appris la date de la prochaine extension, Cataclysm. Ouais. Qui sort donc le 7 décembre.
Tu as l'air bien sûr de toi.
Non, mais c'est vrai que j'y ai beaucoup joué dès le départ. J'ai même monté un personnage, pas le niveau 80, mais 74, 75, donc j'ai quand même pas mal joué. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai abandonné. Et c'est leur politique d'extension relativement longue à arriver, quand même ça aide pas, parce qu'à côté quand même le jeu vidéo avance. Donc j'ai aimé WoW, je l'aime toujours d'amour dans mon cœur, mais j'y joue plus.
Voilà. J'ai joué 6 mois et puis.
Ce qui est déjà pas mal, hein, pour un MMO. Hein.
En devoir professionnel, j'étais obligé d'arrêter parce que je ne voulais plus jouer à d'autres jeux, donc ouais. Je me suis dit. Il y a comme un souci. Patrick.
Oui, alors donc la news aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques années, Steven Spielberg avait annoncé un partenariat avec Electronic Arts qui tournerait sur, je crois, 2 titres. Qui serait supervisé par le fameux réalisateur hollywoodien. On a eu Boom Blocks qui était sorti sur Wii.
Très très étonnant. C'est vrai que quand on parle d'un réalisateur de cinéma, on s'attend à un truc
scénariste, cinématographique, etc. Ouais. Mais c'était un jeu très sympa qui a pas fait un carton en termes de vente, mais qui était
c'était un jeu plus concept qu'autre chose.
Enfin, ouais. Et voilà, mais qui était
puzzle concept,
qui était plutôt sympa. Et notamment le deuxième, il y avait une deuxième édition qui était plus riche en fait, etc. Donc c'était plutôt une bonne expérience. Donc on attendait de voir un petit peu la suite de ce partenariat. Et le site Joystick vient de sortir l'info comme quoi le deuxième projet était annulé, tout simplement. Ça s'appelait le projet LMNO. Voilà, on sait juste que c'était un jeu d'action aventure sur PlayStation 3 et Xbox 360. Et qu'une équipe avait travaillé quand même sur ce projet pendant 2 ans et demi, donc les boules quoi. On imagine le projet quand même bien avancé et qui donc passe à la trappe.
Mais s'il passe à la trappe, c'est qu'il devait pas être fameux.
Alors,
non plus, quoi.
D'après le site, en fait, le projet a été annulé parce qu'un jeu assez proche est sorti chez Electronic Arts. Ce qui a fait, ça risquait, à mon avis, de faire doublon,
donc,
certainement.
Il y a peut-être une chance qu'on le retrouve chez un autre éditeur. Alors,
pas sûr. On sait juste que, donc, Spielberg et Electronic Arts ont communiqué, continué à travailler, à avoir leur relation de partenariat. Et je pense qu'on reverra certainement Spielberg dans le jeu vidéo, c'est sûr. On sait qu'il s'intéresse à ça depuis des années. On se rappelle qu'il était présent chez Microsoft, je crois il y a un an et quelques, à l'E3, pas le dernier mais celui d'avant, où il était venu pour à la présentation de Kinect. Donc on sait que le réalisateur est plutôt intéressant.
On sait qu'il vient tous les ans à l'E3 pratiquement.
Bien
il fait
sûr,
sa petite visite encadrée.
On l'avait vu jouer à la Wii avec Miyamoto à l'époque. On sait que lorsque la N64 était sortie, il avait dit que c'était fabuleux, qu'on pouvait faire plein de choses dessus. Donc peut-être un peu opportuniste parce qu'on a l'impression qu'il travaille comme ça un peu avec plusieurs éditeurs. Mais pour l'instant, son projet qui était en route est annulé.
C'est pas le premier ni le dernier réalisateur qui se met aux jeux vidéo.
John Carpenter travaille sur
Fear 3. Guillermo del Toro récemment avec aussi. Une annonce qui en a fait baver plus d'un le fait qu'il travaille sur un gros jeu vidéo, sur un gros budget. Voilà. Maintenant je me souviens de cet auditeur qui nous reprochait trop de dire voilà et je fais un tilt à chaque fois.
On va en faire plusieurs. C'est fait. Hein.
Non, mais bon, c'est...
On a atteint le quota, il ne faut plus en dire maintenant.
Ah putain, je vais pas y arriver. Bref, le com des coms de la semaine dernière. Donc je commence avec Animal qui dit: Hiro, Erwan, tu poses une de mes questions sans me citer, moi qui attendais impatiemment mon heure de gloire. Et la question sur Puckman et Pac-Man était donc de Animal. Toutes mes excuses. C'est vrai que j'avais cité les deux premiers et pas le dernier. Donc,
et voilà.
Non, s'il te plaît, un peu de discipline. Le tyran, personnellement, donc la semaine dernière c'était Civilization 5. Hein. Personnellement, je suis resté franchement circonspect devant ce 5e épisode de Civilization. Je ne suis pas un vétéran de la série, mais j'ai quand même passé plusieurs centaines d'heures sur d'autres titres du genre, comme le fabuleux Galactic Civilization 2. Et franchement, sorti de l'aspect stratégique et qui est effectivement le point fort de ce Civ 5. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Le problème, voyez-vous, c'est que moi, l'aspect stratégique pur, ça m'emballe moyen sur ce genre de titre. Je suis bien plus branché géopolitique, diplomatie et culture. Et là, j'avais constamment le comparatif avec Galactic Civilization en tête. Pas d'espionnage, pas de transfert technologique, pas de conquête culturelle, pas de création de civilisation avec tout un tas de compétences déterminantes vis-à-vis de notre style de jeu, des menus simplistes chiches en information et en graphique, et j'en passe. Voilà, donc
c'est deux jeux, je comprends qu'il les compare d'un côté, mais c'est quand même deux jeux qui ont une approche différente du concept, donc c'est normal.
C'est vrai qu'il y a une simplification dans ce Civilization 5, notamment en termes de menu. Moi, ça m'a semblé plutôt intéressant plutôt que gênant, et c'est vrai que
on suppute que comme dans le 4, en fait, la diplomatie, enfin, où les espions vont arriver après avec un add-on. Il y a de grandes chances de ça.
C'est vrai que le seul point où je suis assez d'accord avec lui, c'est l'écran des bilans, une fois la fin de la partie.
Qui est extrêmement limité.
Qui est un peu limité. Pas. On aimerait bien avoir 143 graphiques avec évolution du nombre de trucs pendant les 6050 ans de jeu. Mais bon. Alors, à Underscore, qui revient sur Team Fortress 2, dont on a rapidement parlé la semaine dernière. À propos de la dernière update, je pense que Clément a pas dû très bien regarder. Si les nouvelles armes sont entre 50 centimes d'euros et 2 euros, ce qui reste encore assez raisonnable, les nouvelles, elles, sont entre 2,50 euros et 5 euros, mais en plus fonctionnent par 7. Ainsi, si on achète le bundle à 20 euros pour le sniper, on obtient l'avantage d'être invulnérable au headshot. Et là, on n'est plus dans le détail, on est dans le gros avantage de gameplay. Et actuellement, acheter toutes les armes coûte dans les 81,70€.
Oui, mais je vais rebondir.
Non, 81,70€.
Ah oui.
Mais en fait, elles peuvent dropper,
etc. Ouais. Elles peuvent dropper durant le jeu. Et il a raison sur ces armes-là qui sont faites par Polycount. Il a raison sur le sniper, mais c'est l'exception qui confirme la règle.
Ouais,
voilà, parce que toutes les autres ont un avantage et un inconvénient, comme d'habitude dans le jeu.
Je peux rajouter une parenthèse sur Spielberg. Rapidement, je viens de me rappeler qu'il a quand même travaillé sur le premier Medal of Honor sur la première PlayStation. Donc voilà, on parlait de Spielberg et de jeux vidéo, faut le souligner.
Voilà.
C'est fait.
Tu vas nous faire des parenthèses toutes les 10 minutes.
Ça m'est revenu, voilà, le Medal of Honor, le premier.
The great and powerful king of Albion is dead. To one son, he leaves the crown.
This is my Albion. Its people will do as I say, or they will die.
To the other son, he leaves a life of adventure.
Flawless! Who could resist you?
One brother's tyranny leads to starvation and misery.
Albion needs nothing less than a revolution.
While from the other brother's choices, the quest to save Albion begins.
Vous l'avez sans doute reconnu, ce trailer n'est pas tout nouveau. Il s'agit de Fable 3 et on va parler, on est mi-octobre, là pile poil mi-octobre. Et la période de Noël est bat son plein, en tout cas déjà dans l'univers du jeu vidéo. C'est une tradition de entre fin septembre et fin novembre. Peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas pendant très très longtemps, ça a été là où peut-être 50% de la production annuelle sortait en fait.
80% du chiffre d'affaires aussi.
80% du chiffre d'affaires.
Et il y a toujours beaucoup de jeux qui sortent en quelques semaines.
Et donc arrivé à mi-octobre, c'est le moment peut-être de faire un bilan de ce qu'on attend, des pronostics. Ce sera quoi les jeux de ce Noël 2010. Allez, on va commencer avec Amstram Gram, Patrick.
Sur Amstrad, justement. Moi, j'attends pas mal de jeux sur la bécane. Non, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les jeux qu'on attend, que tout le monde attend. On va parler d'Assassin's Creed, le prochain, évidemment. C'est un peu un rendez-vous que tout le monde attend parce que voilà, on aime bien la série, qu'on a envie de voir ce qui arrive.
Il arrive quand, celui-là?
Il arrive en novembre.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a les jeux que j'ai envie de voir. Par exemple, il y a deux... Il y a par exemple
le 18 novembre pour Assassin's Creed.
C'est sur la deuxième partie de novembre.
Tu cherches tes notes?
Elles sont juste là, sous mes yeux. Non, par exemple, il y a les jeux qu'on attend aussi parce que voilà, on a un historique et qu'on attend plus personnellement. Moi, par exemple, le GoldenEye, le remake sur Wii, je l'attends, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puisque le premier était un jeu mythique de l'époque sur la Nintendo 64. Donc j'ai envie de voir ce que va donner cette reprise sur Wii aujourd'hui. Moi, j'ai envie de voir aussi le Star Wars Force Unleashed 2.
Ouais.
Le premier était pas mal. Je trouve que c'était vraiment un des rares jeux d'action.
C'est vrai qu'il avait, plutôt... il avait pas mal de qualités. Hein, Force... J'étais un peu circonspect quand même sur la durée, ça m'intéressait pas des masses, mais c'est vrai que ce deuxième,
c'était une bonne adaptation de la série. Et puis en trichant un petit peu, parce que là on arrive sur janvier, moi il y a évidemment Dead Space 2 que j'attends impatiemment.
C'est une des conclusions à laquelle on devrait arriver, en tout cas à la fin de cette séquence, c'est que oui, il y a Noël, mais maintenant, janvier, février, c'est quand même une sacrée... Ouais. période ouais, dans le jeu
belle, vidéo. Une belle période.
C'est et vrai. Là, on a presque envie de sauter Noël. Et allez, on est déjà en janvier-février.
Il faut. Mais là, et aussi le Donkey Kong Returns que j'attends impatiemment, qui est toujours ce mix entre le rétro et le,
ouais,
le redesign
sympa.
Du voilà du.
Mais je sais pas si c'est pour la fin
décembre, hein, début décembre.
Décembre, d'accord.
Clément.
Oui, bah alors effectivement, un peu comme Patrick. Non, pas si je parle pas sur ses goûts un peu bizarres en jeux vidéo. Mais,
c'est-à-dire dans les développeurs.
Bah, je veux dire qu'effectivement, comme Patrick, je trouve qu'il y a peu de jeux. C'est-à-dire que là, on va dire, cette année 2010, c'était
c'est
un excellent
bizarre,
cru.
Dire quoi, ça c'est bizarre.
Cette année 2010, c'était un excellent cru pour les jeux vidéo.
Ouais.
Là, il y a énormément de jeux de qualité. Pour moi, les jeux de Noël, là, sont déjà sortis. Pour moi, c'est, ben, on parlait d'Halo Reach, on parlait de Civilization, on va parler de Lord of Shadow. Il y a pas mal de jeux, là, en fait, qui, pour moi, sont les plus gros jeux de Noël sont déjà sortis. Ceux que j'ai notés, parce que j'ai envie de regarder, mais si je pense pas que ça, non plus, ça va être des excellents titres, mais à voir. Moi, j'ai noté Gothic 4. Gothic, qui est un jeu.
Il est sur console, je crois. Pour... Enfin, il est
en tout cas, moi, je regarde sur le PC. Je regarde sur PC. Sachant que c'est un jeu de rôle. Voilà. Il y a Sonic 4 aussi qui sort bientôt, ou très bientôt, qui vient de sortir.
Oui,
il sort aujourd'hui.
Je suis curieux de le voir. Dans les jeux qui viennent de sortir, dont on n'a pas encore parlé ici, il y a Enslaved aussi.
Dont on va parler, évidemment.
Et sinon, dans les jeux vraiment à venir, il y a Vanquish de Sega.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, ça, le Vanquish, c'est un peu mon attente honteuse. C'est l'espèce de truc bourrin qui a l'air bourrin au dernier degré,
sympa,
ouais. Mais qui me fait envie. Enfin voilà, je vois les vidéos.
Sinon, il y en a encore deux que j'attends d'ici la fin de l'année. Il y a, alors bizarrement, le Fallout New Vegas.
Ah oui, alors ça, je m'attendais pas du tout.
Parce que.
Je
l'attends peut-être pour le critiquer.
Mais t'as un rapport bizarre avec, avec cette série. Ouais.
C'est
assez ambigu.
C'est une relation d'amour
haine. Clair là-dessus.
Une relation d'amour haine. Enfin, ceux qui ont joué à Fallout 2 comprendront.
Ouais, bah,
bref.
On connaît ton histoire.
Et enfin, j'attends le. Même si c'est, on va dire, un blockbuster annoncé, j'attends de voir ce que va donner Call of Duty Black Ops.
Voilà, on attend tous de voir à quoi va ressembler le Call of Duty de cette année.
Mais sinon, pour tricher comme Patrick, parce que Patrick est un petit tricheur, effectivement, c'est plus sur l'année. Et en 2011, là, quand même, en janvier, février, mars, on a des tonnes de jeux qui arrivent. Et notamment, il y a Bulletstorm, moi, que j'entends énormément, qui est le
FPS bourrin d'Electronic Arts. Hein.
Voilà.
Ouais. Ouais, et puis,
Deus Ex 3, il y a des titres excellents qui arrivent normalement.
Alors, je suis très étonné, vous n'avez pas cité Ce soir, on joue en famille 3 hein, de Electronic Arts, qui sort le 28 octobre.
Il y a Gran Turismo 5 aussi, pour les fans du genre.
Ah oui, en blockbuster, Gran Turismo 5. Alors moi, par contre, je suis dans l'incapacité physique de jouer à un Gran Turismo, vu que je ne sais pas freiner avant un virage. Ça me semble toujours absolument délirant de devoir freiner alors qu'on est dans un jeu de course. Je trouve ça un scandaleux. Hein. Donc voilà, je ne peux pas jouer à Gran Turismo 5. C'est une de mes grandes faiblesses. Alors voilà, on les a déjà cités. Vous n'avez pas vraiment cité Fable 3, qui est quand même...
Il était en introduction. On n'allait pas retricher
encore.
Quand même,
Fable 3.
Non, je pense que c'est un bon
j'avais,
jeu. Mais...
J'avais pas du tout accroché au premier. Hein. J'étais pas vraiment rentré dedans. Le deuxième...
Le premier était vraiment sous les promesses.
Le deuxième m'a vraiment fait fasciné, j'ai complètement été absorbé. Et c'est vrai que même si je ne me renseigne pas trop sur qu'est-ce que c'est les nouveautés du Fable 3, j'attends d'avoir la surprise d'ouvrir le jeu, de le lancer et de découvrir ça.
Ouais,
je pense qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel absolument dingue s'ils améliorent, s'ils vont plus loin que le 2.
Je n'attends pas justement pour être surpris agréablement. Enfin, moi j'ai peur du déjà joué, mais bon, on verra.
Très ambitieux en tout cas, donc à voir.
Et tu l'as dit, Patrick. Bon, le jeu que j'attends beaucoup, c'est du Assassin's Creed Brotherhood. Avec Rome qui a l'air énorme, des petits voyages en Espagne,
le multijoueur,
à Naples, le multijoueur qui va être rigolo. Mais c'est vrai que cette année 2010, qui est, tu l'as dit, une excellente année,
très
est pour une fois admirablement répartie sur les 10 mois de l'année pratiquement. Il y a peut-être même pas juillet où il y a eu StarCraft 2.
Non, il y a juste décembre qui est traditionnellement le mois mort.
Tout est sorti en novembre. Et j'ai parlé de Vanquish tout à l'heure et je n'ai pas. Alors il y a le James Bond 007, j'en ai absolument pas.
Il y a GoldenEye et puis l'autre.
Ouais, parce qu'il y a un James Bond 007.
Bloodstone, un nouveau scénario.
C'est assez bizarre. Bon, Michael Jackson, The Experience. Hein. Ouais. Ça, c'est plutôt dans
et
les.
Toi, t'as aussi Football Manager en général, qui pour toi est une.
Ah oui, mais alors celui-là, je n'en parle pas. Hein. Ouais. Je n'en parle pas parce que c'est d'une part, j'espère chaque année éviter de m'y lancer.
Mais tu le lances toujours.
Ouais, pas toujours. Il y a des années où j'ai résisté, peut-être parce qu'il y avait d'autres jeux. Et c'est vrai que là, je pense jouer au Football Manager de cette année d'une manière. ça va être
gourmande.
Voilà. Oui, c'est le terme. Merci Patrick, une manière gourmande. Et à part ça, bah pas grand-chose. Hein. J'avais noté Monopoly Streets, non, mais ouais. C'était pour rigoler. Qu'est-ce qu'on rigole. Et voilà. Et donc on attend beaucoup janvier et février.
Janvier et mars,
déjà. Voilà. Je crois avoir discuté avec notre ami Sébastien de Naufrag qui disait que en termes de FPS sur ce qui allait sortir à Noël et même cette année, c'était une catastrophe et que rien que pour février, il en avait 4 ou 5 déjà en
gros,
réserve, de très très gros. Donc voilà. Un Noël, bon, en même temps, il y a des surprises, quoi. Il y a des surprises, par exemple, ce dont on va parler maintenant.
The mask is a powerful device.
Can it really bring the dead back?
You are betrayed. There is no resurrection. Only this living death you see before you.
Castlevania Lords of Shadow. Comme je vous dis que c'est une surprise, ça n'en est peut-être pas pour ceux qui attendaient le jeu comme le Messi. En tout cas, moi, je n'avais pas vraiment d'attente sur ce Castlevania, n'étant pas. J'y ai joué au Castlevania auparavant, mais voilà, c'est pas été une série mythique pour moi.
La série a toujours eu du mal à passer le cap de la 3D, en fait.
Du
précédent en date, qui était assez difficile. Oui. Même si moi, j'ai une petite affection particulière pour le Castlevania 64, parce que voilà, bon, c'est
un
peu perso.
J'aime bien ta notion assez difficile. Oui, assez difficile.
Voilà, la version 64 était, moi, j'aimais bien, mais c'est vrai qu'entre deux, on a eu des épisodes qui rompaient vraiment avec la tradition Castlevania, qui est un jeu 2D à la base.
Mais
c'est
ça,
vraiment
c'est
un jeu de plateforme.
Mais ça, c'est ce qu'on dit depuis, c'est vrai, sur le Castlevania, donc c'est une licence.
Des années 80, milieu des années 80.
Voilà, qui c'est une licence connue des joueurs parce que régulièrement, on avait des jeux et régulièrement, tout le monde se plaint en disant ah c'est pas un vrai Castlevania.
Il y a eu la mode des Metroidvania. Voilà.
Il faut reconnaître que la série avait trouvé une plateforme de prédilection avec la DS. Il y a eu plusieurs épisodes plutôt réussis sur DS,
oui.
Qui était en 2D, qui revenait vraiment aux fondamentaux des premiers. On se rappelle du Vampire Killer sur MSX.
Et alors, voilà, quand on s'attend d'ailleurs à un retour aux sources, parce qu'on se dit ah tout le monde dit que ce Castlevania est bien, ça doit être un retour aux sources vers les Castlevania.
Et bien,
on se prend une grosse claque. C'était un retour aux sources vers God of War.
Il y a l'assimilation de plein d'influences.
C'est un jeu.
Clément.
Oui, non, c'est un jeu. Moi aussi, bizarrement, j'attendais pas et j'ai été très, très, très agréablement surpris. Vraiment un excellent jeu. On va revenir sur ses qualités et ses défauts, mais effectivement, c'est un jeu. Alors, ceci dit, il aurait pu ne pas s'appeler Castlevania, hein, parce que en fait, il prend à beaucoup, beaucoup, beaucoup du jeu d'action, mais il le prend très bien et il le sublime et il arrive à créer son univers. Mais c'est du déjà joué, mais très, 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 très bien réalisé.
Donc, c'est du déjà joué un peu partout aussi.
Un peu partout, voilà.
C'est presque du c'est jamais ça. Joué dans un seul
exactement,
jeu.
Il y a beaucoup de Darksiders, voilà, il y a beaucoup de Bayonetta,
il y a du God of War.
Il y a une vraie assimilation de plein de.
Il y a du God of War, oui, beaucoup. On voit même parfois un peu de Shadow of the Colossus.
Un peu.
Voilà.
Alors, il faut savoir, parmi les galeries de boss, parce qu'on est sur un système de beat'em all quand même assez classique du.
Bah, classique, oui.
On y reviendra, mais il y a des boss, les titans, parmi les boss sont des colosses, donc c'est vraiment Shadow.
Comment tu dis, des colosses?
Des colosses. Pardon. S'il te plaît.
Ça sent les commentaires pour la prochaine. Ça.
Oui, non. S'il te plaît. On va pas y arriver.
Mais c'est pas grave. Alors, donc, c'est une.
Et on grimpe dessus à la façon Shadow of Colossus et
God of War aussi,
on arrive. Pour ces bestioles-là. Et donc là c'est à la limite de l'hommage quand même.
Mais c'est extrêmement bien fait. Donc moi ce que j'ai vachement aimé dans ce jeu-là, c'est que c'est très bien mis en scène. Les ennemis qui qui contribue au bestiaire de Castlevania sont là, et c'est pas des sacs de frappe, voilà, c'est,
ouais, y a
c'est
une vraie, y a,
voilà, ils sont là, il faut vraiment se protéger,
vraie difficulté,
voilà.
Ouais, c'est pas un jeu facile et
mais c'est un jeu qui en met plein la vue quand même, il est très beau, il est très bien mis en scène, il y a un petit aspect couloir qu'on suit, mais on sent qu'on suit vraiment une histoire, moi c'est ça que j'ai vraiment aimé aussi dedans, c'est très beau, et surtout quand on, même s'il y a petit défaut, moi je trouve qu'il y a pas beaucoup de variété dans les armes parce qu'on a souvent que la, enfin
ça, et puis la fameuse caméra qui est comment dire qui est scriptée, en fait on n'a pas du tout, on peut pas bouger la caméra,
mais il y a quand même une sensation de puissance dans les coups, et ce qui est rare à retranscrire, hein, ça paraît simple dit comme ça, mais c'est rare à retranscrire. Et là, effectivement, on rentre dans le jeu, même si moi je suis mort quand même plusieurs fois déjà dans les premières heures, c'est agréable d'y retourner parce que les sauvegardes sont bien placées, etc. On avance, on a envie d'avancer, et moi je suis loin d'avoir fini le jeu parce qu'en plus il est apparemment assez long, il fait entre 15 et 20 heures.
Il est très long, entre 15 et 20 heures, voilà. Et 20 bonnes heures. Ouais.
Et ça a l'air en tout cas, enfin le rythme est bien pensé,
Ça a vraiment rien à voir avec les précédents en 3D qui étaient vraiment décevants, enfin qui n'avaient pas été.
Les musiques sont là, il y a du puzzle.
Et puis il y a un look, il y a quand même une esthétique super réussie, je trouve,
qui est d'un côté gothique évidemment parce qu'on est dans Castlevania, mais qui rentre pas dans le kitsch façon Devil May Cry ou Bayonetta.
Ah bah, y a des scènes
on rentre
qui...
jamais dans le kitsch, c'est on est plutôt dans le gothique de la Hammer, classique
sous la pluie, tout ça, voilà.
Ouais. Alors moi ma Xbox 360 a un peu ramé, notamment dans certaines scènes cinématiques.
Oui, mais la PS3 c'est pareil,
je suis à la ramasse. C'est vrai. Mais c'est pas gênant parce qu'une fois dans le jeu, par contre, ils ont fait attention à ce que ça ne rame pas dans le jeu. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les alternances de gameplay. C'est vrai qu'on est dans du beat'em all, donc on tabasse, et puis un coup on a une monture, un coup on a un puzzle, il y a ces titans qui arrivent et qu'on doit grimper.
Il y a pas la routine qui s'installe.
Il y a beaucoup d'arrêtés.
Pas de routine.
Ça bouge bien.
Et alors je suis un peu une quiche en beat'em all où il faut apprendre les combos et gérer les combos en fonction des boss. J'ai très très vite abandonné du Ninja Gaiden parce que
je me suis très vite
retrouvé face à des boss où il fallait apprendre le pattern et rien que le découvrir, je mourais avant même de découvrir le début du pattern. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut pas à aucun moment, il faut penser, c'est bon, je vois à peu près, j'arrive à taper 3 fois sur X ou 3 fois sur Y pour faire des coups directs ou des coups de zone. Oh, je devrais pouvoir m'en sortir et tapoter un petit peu au hasard façon Kratos. Moi, c'est ma technique. Kratos, c'est boum. Et
des
combos. Et là, faut pas. Là, faut pas. Faut vraiment se retrouver dans la position de l'élève, pratiquement, et se dire, il faut que j'apprenne parce que de toute façon, on se fait maraver la tête sans aucun souci.
Mais ceci dit, tu as raison, mais c'est pas non plus une difficulté qui est frustrante. C'est une difficulté qui aide à progresser. Et c'est ça que, moi, que j'aime beaucoup dedans, c'est que les ennemis, pour une fois, dans un beat'em all, on se dit pas, voilà, il y a 50 ennemis devant soi, enfin, à la God of War, où il y a 50 ennemis, je me déchaîne, je suis ultra puissant, et les ennemis vont mourir devant nous, et on avance. Là, ça va être le cas, mais on va devoir quand même un peu plus lutter, on va devoir se protéger, on va devoir éviter les attaques adverses qu'on ne peut pas parer. Et voilà, moi j'ai vachement aimé ce côté-là.
Vrai que ça bouge bien. Moi j'ai
ce
eu
côté
des
achievement
soucis,
personnel en fait.
Bon, j'en parlais tout à l'heure avec la caméra fixe qui est scriptée où on peut pas interagir. Moi ça m'est arrivé des fois de sécher pendant 10 minutes sur un passage. Un vrai problème de visibilité, on voit pas bien dans quel sens on doit aller, etc.
Il paraît que ça arrive. Il y a un pote qui m'a dit que ça arrivait un petit peu dans les phases.
Moi ça m'est arrivé au tout début du jeu, où je suis resté 10 minutes à chercher.
Au tout début ça va plus, Patrick.
Mais c'est moi le côté de la caméra fixe, j'ai trouvé ça un petit peu bon.
Mais c'est vrai que le jeu est tellement. Beaucoup de qualité. C'est vrai que sur ces beat'em all qui peuvent, chez certains joueurs, amener beaucoup d'ennui, parce que alors il y a ceux qui sont pas sensibles à cette espèce d'impression de puissance qu'on peut trouver dans le God of War classique. Là il y a beaucoup de variété, il y a cette espèce courbe d'apprentissage ou escalier d'apprentissage dans mon cas, où il faut grimper les marches une par une. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est récompensé aussi de l'apprentissage. On n'est pas récompensé simplement en bastonnant les niveaux, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on a parce qu'on on découvre, hein, il faut quand même jouer 5-6 heures faciles pour commencer à débloquer toutes les jauges débloquables, notamment magie de lumière, magie d'ombre et la super jauge de combo. Et la super jauge de combo est géniale parce que donc on doit en fait enchaîner un certain nombre de coups différents face à des adversaires que ces coups touchent, et la jauge de combo, tant qu'on n'est pas touché, la jauge de combo augmente, elle se vide évidemment dès qu'on prend un coup, et quand la jauge de combo est pleine, à chaque fois qu'on tape, on a des orbes de magie qui sortent, donc très très intéressant pour enchaîner parce que en fait quand on passe en mode magie obscure, les coups sont plus puissants, la magie blanche, on gagne de la vie, et donc c'est très intéressant de garder cette jauge ininterrompue, récupérer les orbes un peu
ça te force, on va dire, à bien jouer.
Ça te force à bien jouer et tu vois
variée,
très très vite quand tu t'améliores.
Ouais.
Parce que dans un beat'em all, on arrive, bon, il y a des fois, on n'a pas trop envie de faire dans la dentelle, allez, on y va, on castagne un peu à tout va. Et on voit que cette jauge, elle augmente pas parce qu'on se fait toucher un peu sans faire gaffe. Et très très vite, quand on se met à penser un combat, eh ben, on y arrive et c'est très, y a des vraies récompenses.
C'est très bien fait pour ça.
Ce qui est intéressant à souligner, je pense, c'est que le jeu n'a pas été développé par Konami en interne, mais a été confié à un studio espagnol, je crois.
Qui a fait un peu de la merde avant, en plus. Hein. Ouais.
Je sais pas étonnant. Ce qu'ils ont fait avant, mais...
Ils ont fait des jeux moyens. Ils ont fait, de mémoire, Jericho. Et voilà, et ils ont fait un jeu qui était encore plus ancien, qui s'appelait, je sais plus.
En tout cas, ce qui est intéressant, voilà, c'est que ce que tu disais, Clément, tout à l'heure, de se demander, est-ce que c'est encore un Castlevania, parce qu'il y a une vraie rupture par rapport au précédent. Je pense que ça vient de là aussi, c'est qu'on a un nouveau studio qui apporte justement un peu de fraîcheur.
Avec a priori du Kojima prod
par-dessus,
superviser le développement. Ouais.
Mais c'est vrai que si on s'attend, enfin, si les fans de la série s'attendent à un Castlevania. À mon avis, ils peuvent être déçus, mais si on prend en tant que tel, c'est un jeu.
Oui, c'est intéressant de faire évoluer aussi la série, d'explorer d'autres.
C'est encore une de ces des bonnes surprises
Année. Mais ouais, clairement, je crois qu'il va arriver dans mon top 10 de l'année, et en tout cas, c'est un jeu
facilement.
Et j'ai déjà vu des fuites sur le net comme quoi une suite sera déjà en préparation selon le compositeur, je crois, de la bande son.
C'est dingue, c'est hyper étonnant.
Et il y aura un Street Fighter 5 et peut-être même un 6.
Non, mais c'est vrai. Imagine bien que c'est le début de quelque chose. Hein. Ouais, c'est sérieusement. Castlevania Lords of Shadow sur PS3 et 360.
Conseillé, bien sûr.
On va accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vais vous parler d'un tout petit jeu de cartes arrivé sur les étals de nos boutiques préférées, Sobek. Sobek est un jeu de cartes créé par Bruno Catala, un nom qui doit résonner à vos oreilles, puisque c'est l'un des co-auteurs de la série Monsieur Jack, Monsieur Jack à New York et Monsieur Jack Pocket. C'est dire si cet auteur a pu être apprécié grâce à la subtilité de ses créations à la fois fines et extrêmement profondes, mon cher Erwan. Sobek est un jeu édité par les éditions Gameswork, un éditeur suisse, plutôt très pointilleux sur les qualités du matériel. Je vous laisserai découvrir l'intérieur de la boîte. Le thermoformage a été pensé de manière extrêmement intelligente et ma foi, forte agréable. Alors, Sobek est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties vont durer une trentaine de minutes. Il vaut mieux avoir un peu plus de 10 ans pour appréhender la mécanique, car il y a quelques subtilités, malgré le côté un peu BD et simplissime de sa règle. Alors, c'est un jeu de collecte de cartes. C'est-à-dire que vous allez avoir un lot de cartes proposé au centre de la table, et à votre tour, vous allez avoir 3 actions. Soit poser un lot de cartes que vous avez dans votre main, et que vous avez collecté préalablement, soit récolter des cartes, soit faire d'autres choses, mais peu importe, vous le lirez dans la règle. Le truc extrêmement intéressant, c'est que vous avez les cartes alignées devant vous, vous allez pouvoir les acheter, commençant par la gauche jusqu'à la droite, enfin les acheter, en prendre possession, mais la carte qui vous intéresse est peut-être pas forcément la première accessible, peut-être que la troisième vous intéresse. Le truc, c'est que si vous prenez la troisième, les 2 cartes précédentes, vous allez les mettre face cachée, sous un petit jeton à vous, qui vous représente, et c'est votre pile de corruption. Et c'est là où il va falloir être subtil et attentif, c'est que vous allez pouvoir choisir les cartes que vous voulez, accumuler de la corruption, mais cette corruption ne sera effective et ne sera négative que pour le joueur qui en aura accumulé le plus. Donc il va falloir faire très attention à ce que font vos adversaires. Ces cartes ont des familles, ces cartes ont des points de victoire, ces cartes ont des effets. Je ne vais pas tout vous résumer là. Ce que je peux vous dire, mon cher Erwan, c'est que Sobek est extrêmement fin. Les parties sont rapides, une trentaine de minutes. Il va falloir réfléchir, il va falloir être attentif, il va falloir être fourbe, il va falloir bluffer, il va falloir un peu mentir. C'est un jeu fin, un jeu pas cher. Il coûte, je dirais, une vingtaine d'euros maximum. Les règles s'apprennent très facilement. Au bout d'un tour, vous aurez à peu près compris comment on y joue. Bruno Catala est un auteur assez fin et efficace. efficace. Voilà, mon cher Erwan, c'est Sobek de Bruno Catala aux éditions Games Works. Ça vient d'arriver sur les étals, une vingtaine d'euros pour quelques heures de plaisir avec vos amis joueurs. À la semaine prochaine, mon cher Roi.
À la semaine prochaine, monsieur Fall. Il a l'air pas mal, ce Sobek, quand même. Eh bien, voilà, donc suite à l'appel il y a 2 semaines... tout pile, du retour de la Minute Culturelle, minuteculturelle@gmail.com pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc, j'avais demandé à nos chers auditeurs de poser des questions qu'on mettrait dans cette Minute Culturelle et j'en ai eu beaucoup.
Et vous avez commencé la semaine dernière.
Et on a commencé la semaine dernière avec un point
ça,
pour ouais. Joël.
Donc, bravo Joël.
bravo Joël.
Et il y avait à Clément joué aussi.
et donc, bah, j'en ai reçu tellement que je me suis dit autant faire un comeback Minute Culturelle un tout petit peu sérieux. Donc c'est parti, on va finir l'émission sur des minutes culturelles.
Combien de minutes culturelles alors?
Une quinzaine. Oh, une quinzaine.
15 minutes culturelles.
Sachant que je ne les ai pas toutes prises, notamment, je n'ai pas pris toutes celles de Jérémy Israël qui en a posé, je crois, une dizaine à lui tout seul.
Alors, comme moi, j'ai participé la semaine dernière avec Patrick qui n'était pas là, je vais laisser Patrick répondre cette semaine.
Allez, on va un peu écouter un truc en rapport avec la première question. Et non, ce n'est pas une question, ce n'est pas un quiz musical, parce qu'autrement Patrick aurait tout de suite deviné d'où venait cette musique. Hein.
Donc j'ai le point là, c'est
non,
fait.
Non, pas
donc,
du tout, pas du tout. La question donc est de Chaka de jeudemerde.com. Hein. On a déjà posé une question de sa part la semaine dernière. On vous conseillera jamais assez d'aller voir ces critiques vidéo, qui sont souvent légendaires. Guy Brush Srepoud peut souvent répondre quand on lui demande son métier. Il est vendeur. Mais il est vendeur de quoi ? Oui. Non, je vous ai prévenu. Normalement, vous ne devriez pas pouvoir répondre à aucune, mais bon. Mais
on avait dit pas Monkey Island, parce que c'est toujours un sujet où on se prend des scuds quand on sort de l'émission.
Selling these fine leather jackets. Donc, il vend des vestes en cuir fin. Voilà. Voilà, c'est le métier. Pixo Chirou, donc, qui pose la question. Alors là, oui, alors là, tu dis pas Monkey Island, mais ça va être pire. Quelle manette de jeu les Ghostbusters utilisent-ils dans Ghostbusters 2 pour piloter la Statue de la Liberté?
Une manette NES. NES Advantage.
Moi, je dis bravo, ouais, il a eu la réponse complète. C'était la manette NES Advantage.
Belle manette, d'ailleurs.
Bravo, ouais. bravo.
C'est l'avantage de l'âge.
C'est l'avantage. C'est ça, Clément, bien sûr. Mais il faut aussi voir les classiques comme ça. Ghostbusters 2, il faut voir.
Bien joué.
Deuxième
chapeau.
Question. La TurboGrafx 16.
C'est encore pour lui, ça.
Attends.
La TurboGrafx 16 est-elle une console 8 ou 16 bits?
Alors, ça, c'est la grande question. C'est une 8, 16 bits.
C'est les deux, je crois.
C'est une 8, 16 bits. Pourquoi donc?
Parce qu'elle a un processeur en 8 et... Non, l'inverse. Non. C'est l'inverse, non
ouais, elle a des coprocesseurs 16, non? Mais c'est une 8, un cœur 8 et...
Enfin, ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin.
Vous êtes tellement pas loin que je vous accorde le point à tous les deux. C'est beau. Malgré ce que le marketing clamait, c'était une console architecturée autour d'un processeur 8 bits.
C'est ça, mais
coprocesseur... C'est son processeur vidéo qui était en 16, permettait davantage de couleurs et de sprites à l'écran, tout en gardant malheureusement les limites 8 bits en termes de complexité de jeu et de gameplay.
Ouais. D'où le côté speed des shoots qui sont hallucinants dans cette bécane, d'ailleurs.
Voilà. Je suis épaté. Hein. Franchement, vous m'épatez. Ouais. Une question de notre cher ami Ned Sabes en 1995.
Salut Seb.
En 1995, le développeur Inkscape adapte en jeu vidéo une série de nouvelles issues de l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Le jeu, proprement terrifiant, bénéficiait d'animations en stop motion et d'un doublage réalisé par rien moins que William S. Burroughs. Quel est le nom de ce jeu ?
Attends, c'est 95, une adaptation
d'une série de nouvelles issues de Edgar Allan Poe.
Je savais même pas que. Enfin, pourtant, j'adore Poe, moi. Je sais pas si vous avez habitué à.
Une série tirée. Enfin, c'est tiré d'une série de nouvelles, c'est ça ?
Voilà. Avec la voix donc, de William S. Burroughs et une animation en stop motion.
Stop motion.
Et le jeu proprement terrifiant. Pour le petit Ned Sabes en 95, hein, il faut vraiment relativiser. Et donc il s'agit de The Dark Eye. Voilà, The Dark Eye. Bon.
Bon, bah oui. Connu,
ouais. Enimal, donc, que je n'avais pas cité la semaine dernière, qui avait posé une deuxième question. Comment s'appelle le tout premier jeu de Richard Garriott?
Oui, alors ça, c'est bien sûr, c'est sur Apple II, je crois.
Richard Garriott, donc, pour nos auditeurs,
Ultima,
Ultima, et qui s'est amusé à aller faire un petit voyage dans l'espace récemment.
Oui, bien
il
sûr.
A raison, il a raison.
Akabat ou Ata. Non, un truc comme ça, non.
Ah ouais, non, mais je suis presque tenté de.
Akabat ou.
J'ai de donner un demi-point. Il s'agit de Akalabet.
Qui vaut une fortune sur eBay d'ailleurs. Parce que c'est
et pour la petite
jeu,
histoire, Garriott.
C'est un jeu de quoi d'ailleurs?
Je crois que c'était annonciateur des Ultima en fait. C'est un espèce de. Pas de brouillon, mais presque des Ultima.
Je n'en sais rien. Moi, alors là, pour l'instant. Pour la petite histoire, Garriott le distribua lui-même dans des sacs de congélation en guise d'emballage avant d'être repéré par California Pacific Computer Company qui décida de l'éditer. Et donc ce jeu-là a été édité, mais c'était un petit truc que Garriott vendait
et après,
tout seul.
Il est devenu
le créateur des Ultima et
Lord British,
la série, Lord British. Voilà, oui. Donc ça, c'était. Ça a été Richard.
Je me rappelle le croiser sur des salons ECTS à l'époque, il se baladait vraiment.
Il se baladait vraiment
avec
la
couronne
et tout. Ouais.
C'est extraordinaire.
Bon, ouais, c'est franchement, qu'est-ce que t'en penses, Clément? Là, il mérite un Akabat.
Ouais, allez, je lui donne.
Quel grand prince.
Toujours Enimal. Quelle est la première console de jeux vidéo portable avec des cartouches de jeux échangeables?
Alors, la
portable échangeable,
console de jeux vidéo portable
c'est
avec
une,
des cartouches de
Bécane
jeux.
MB, je crois. Je l'ai en plus. Si c'est celle-là, je l'ai.
Tu l'as chez toi?
Ouais, bien sûr, avec des jeux qui s'encastrent dedans. En fait, on change tout le jeu et on l'enclenche.
MB?
Ouais, je crois, c'est ça, ouais. Et je me rappelle plus de son nom, en fait. C'est terrible.
Mais là, tu m'épates, quand même. Comment on va pas te donner le point.
Non, je sais plus. Ouais,
donc, c'était effectivement une console de Milton Bradley Company, donc MB. C'est la Microvision.
Voilà, oui, exactement.
C'est la Microvision qui est sortie en 1979, soit presque 10 ans avant la Game Boy. Et pour Clément, parce que ça a l'air de t'intéresser.
Non, stop, arrêtez de me poser des questions.
C'était pas une question, c'était les spécifications techniques. C'était le processeur principal, c'était la Texas Instruments TMS 1100 à 100 kHz. C'était un processeur 4 bits.
C'était une dictée magique boostée, en fait.
Voilà. L'écran, c'était un LCD de 16 par 16 points.
Pas mal.
Pas mal, en noir et blanc.
39,
et les cartouches,
31 ans quand même.
Les cartouches étaient des cartouches de 2 kilo-octets.
Et ouais, c'est une belle machine. Enfin, elle a vraiment un look avec le fourreau en cuir et tout. Enfin, c'est vraiment.
T'as plusieurs jeux dessus?
Ouais, j'avais dû avoir 2-3 jeux avec, quoi, qui s'enclenchent. Enfin, bon, c'est une belle bécane. Je l'ai pas toujours sur moi, mais elle est.
Question
elle est très
suivante
bien.
De Verwist. Cette question est destinée aux aficionados des jeux vidéo adaptés en western. Ah. En 1997, sort chez LucasArts le FPS.
Outlaws.
Premier jeu vidéo, à ma connaissance, donc pour Verwist, inspiré du mythe cinématographique westernien.
Ah non, il y en a eu d'autres.
Ouais, là, notamment le shooter sur Atari.
Sur Gunfight à l'époque, sur Amstrad, tout ça.
Lorsque vous terminiez Outlaws, vous aviez la possibilité de jouer une mission supplémentaire particulière, et là aussi très inspirée du cinéma. À quel film faisait référence cette mission générique de fin de Outlaws?
Star Wars.
Bah, étant LucasArts, je dirais pareil. Mais juste parce que Patrick l'a dit.
Eh bien, pas du tout. C'était bien tenté avec le LucasArts, mais c'était l'autre.
Indiana Jones. Voilà.
Pas mal.
Belle
tentative.
À l'ouverture d'Indiana Jones ou les aventuriers de l'Arche perdue, lorsque l'archéologue doit pénétrer dans une grotte truffée de pièges d'araignées géantes et de boules qui roulent et d'effondrements en tout genre, une fois la statue en or récupérée.
C'est vrai que c'est plus cohérent avec l'univers.
Mais c'est marrant qu'à Outlaws, moi, au début, il m'avait plu, mais j'avais pas du tout aimé. Après, je trouvais hyper sec comme gameplay à l'époque, quoi. Enfin, je sais pas.
Une petite sélection des questions.
Il y a pas de zombies dans Outlaws.
Voilà. Dès qu'il dit western ou des zombies, t'as.
Une petite sélection des questions de Jérémy Israël qui nous dit quel high score de jeu a officiellement tenu le plus longtemps. Quel jeu, hein. Enfin.
Celui de Donkey Kong.
De Donkey Kong.
Eh bien, pas du tout. c'est le record établi par Scott Safran en 1982. Pour le jeu Astéroïde, qui et en fait, il n'a été reconnu et n'a toujours pas été battu depuis 1982. Donc, si vous voulez boîte un record de jeu historique, mettez-vous à Astéroïde.
Mais sinon, Donkey Kong, juste une petite aparté, il y a un excellent documentaire,
The King of Kong,
qu'il faut voir si vous.
Et on a fait une news sur écran.fr récemment parce que il y a eu un changement de champion.
Il a regagné le bon. Voilà. Allez.
Quel est le vrai j'aime beaucoup cette question. Quel est le vrai prénom de Solid Snake?
Attends,
solide. Il s'agit de David, il le dit dans la séquence finale du premier opus.
Ok.
Ah, bon, quand même. Quel jeu d'arcade a introduit pour la première fois la fonction continue? Ah ouais, quand même, il y a du niveau. Il s'agissait de Lunar Lander en 1979, donc on pouvait continuer Lunar Lander en rajoutant des sous ou en dépensant des crédits. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est d'un certain Léo qui travaille à Eurogamer.fr.
C'est du Monkey Island, je parie, non?
C'est pour toi, ça. Salut Léo.
Et j'aime beaucoup la question quand même. Dans le premier épisode de la cinquième saison de Doctor House, À quel jeu joue notre diagnosticien préféré dans le pré-générique?
Je sais pas.
Attends, on peut trouver par un, en étant
cinquième saison de Doctor House.
Ça doit être un jeu hyper connu.
Sûrement, c'est récent, c'est rétro, c'est un
Pac-Man ou un...
Non, je sais pas.
Eh bien, il le jouait à Ninja Gaiden 2 sur Xbox 360. Il y a Léo nous fait part d'une petite... Et on voit la vidéo, vous pouvez la retrouver sur Game Trailers, entre autres. On notera, en regardant bien, que la manette n'est pas connectée car elle clignote.
C'est bon, ça.
C'est
et l'acteur fait semblant de jouer, tout ça. Alors.
Et il a les doigts sur les boutons et tout ça. On y croit presque. Et à un moment, la caméra passe derrière. Oh, et effectivement, on voit que la manette clignote, donc n'est pas connectée à la console. C'est un peu bizarre.
Attention, parce que clignoter, c'est peut-être aussi un manque de batterie. Hein. Ouais, parce que moi, hier, quand je jouais, ça clignotait aussi. Donc,
c'est vrai.
Je viens un point
pour nous deux.
Le tyran qui nous parle de la version française du jeu Breath of Fire 3 sur PlayStation est entre autres célèbre pour une erreur de traduction située à la fin de l'aventure. Quelle était cette erreur?
Breath of Fire 3, mais t'as aucune idée.
Alors en fait, à la fin du périple, notre fine équipe était agrémentée d'un petit jeu d'orientation dans le désert. Et le joueur devant céder des étoiles afin d'accomplir la traversée qui le mènerait au dernier donjon du jeu. Problème, la traduction orientait le malheureux dans une mauvaise direction.
Oh non.
Le condamnant a erré à tout jamais au milieu du désert infernal balancer sa manette contre un mur. Voilà.
Ah ouais.
Ah très bon.
Petite question aussi de VNZ. Les créateurs de quel jeu récent au pitch assez similaire ont-ils dû, pour se départager auprès d'un chroniqueur de jeux vidéo anglais, envoyer chacun une image du protagoniste de leur jeu? Du jeu concurrent en lingerie féminine. C'est-à-dire qu'en fait, un chroniqueur anglais a demandé à deux boîtes de jeux de lui envoyer un dessin représentant le protagoniste du jeu concurrent en lingerie féminine. Et question subsidiaire qu'a gagné.
C'est quoi cette histoire?
C'est une belle histoire. Vous pouvez retrouver, donc c'est sur The Escapist.
C'est récent.
Et en fait, il s'agissait des créateurs de Prototype, donc Radical, et de Infamous, Sucker Punch, pour permettre à Ben Yadzi Croshaw de se décider entre les deux. Et en fait, ils ont joué le jeu, ce qui fait que chacun a dessiné le protagoniste
de l'autre.
Et en fait, le gagnant avait dessiné Alex Mercer. Donc c'est Sucker Punch qui a dessiné le héros de Prototype en nuisette sur une licorne entourée d'un arc-en-ciel et avec des seins. Donc voilà.
Ouais, mais c'est normal qu'il l'ait fait pour Yahtzee, parce que Yahtzee de The Escapist, pour rappeler, c'est celui qui fait sa minute très rapide, qui fait ses critiques et qui est vraiment excellent.
En fait. Et qui est très respecté et qui est vraiment très excellent.
Très très excellent.
Voilà. Anthony Sur qui dit...
On peut arrêter l'humiliation à un moment où,
Il en reste deux. Il en reste deux.
Allez, on y va.
Il en reste deux, les deux dernières. Lorsque la presse vidéoludique était vivace, une rubrique était dédiée aux trucs et astuces, aux bidouilles, aux cheat codes. L'un d'entre eux revenait quasiment tous les mois dans les pages de Player. C'était le select stage de Sonic 1 sur Mega Drive. Quel était ce code?
Au bas gauche droite, A plus B plus Start, non? Au bas gauche droite, A et B plus Start, je crois. A plus B plus C plus Start, non?
Non, mais d'accord.
Et voilà, je l'ai.
Pas mal.
Ah, tu me respectes, hein? Là, tu me regardes avec respect, là, tout d'un coup. Hein.
Au bas gauche droite, puis A et Start simultanément.
Et ça donnait quoi, ça?
Ça faisait bling bling, et t'avais le droit, je crois, au stage select ou un truc du genre.
Et ça revenait dans chaque numéro, c'est ça? C'était un récurrent.
Mais là, heureusement que j'étais assis. Hein, bravo.
Alors, le Konami Code. Mais celui-là, quand même, le Sonic Code.
Là, c'est ton premier point depuis le lancement de la rubrique, en fait.
Au moins.
Non, ton deuxième, parce que là, t'en as marqué deux, là, déjà. Vois. Et la dernière de Killscore 2600. Désolé, on en dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Une question facile. mais d'actualité, avec le retour en force des jeux de baston 2D dans Street Fighter 2, première génération, The World Warriors. quels étaient les 8 personnages jouables.
Ah bah, on va la retrouver.
Bah non, bah oui,
on va les retrouver ensemble.
Bah, Chun-Li.
Chun-Li, Honda.
Ken,
Ryu. Ryu, Dalsim,
évidemment.
Ça fait 5.
Honda, voilà. Tu l'as dit, Honda.
Honda, on l'a dit, ça fait 5.
Il vous en manque 3.
Est-ce qu'il y avait Bison, attends, dans ce fichier.
Oui, c'est-à-dire, si c'est la version japonaise ou pas, en fait. Hein.
Est-ce qu'il y avait Vega aussi?
C'était un des boss.
Ah, il y avait Guile, c'est sûr.
Oui,
Guile, ouais. Il fait 6.
Il vous en manque 2.
Qu'est-ce que...
Ce que j'aime beaucoup, c'est la question de kill score de 1600. À la différence des 7 nains, il nous en manque toujours un. Mais il vous en manque 2.
D'accord, c'est ça.
On a combien, là?
On a 6.
Ouais, vous avez 6.
Après, il y a Vega et Bison qu'on n'a pas cité, mais je suis pas sûr.
Non, ils sont pas dedans.
Vega, ils sont, non, il est dans les boss. Chun-Li, on l'a dit. Camille, elle est arrivée bien plus tard. Qu'est-ce que...
Le boxeur, non, c'est pareil, c'est plus tard.
C'est un boss.
Il vous en manque 2, mais c'est vrai qu'ils sont évidents quand on les sait,
Blanca, et j'allais dire le russe, le lutteur, peut-être, non?
C'est bien sûr.
Comment il s'appelle, lui?
Ce serait dommage de perdre si près du lutteur.
Ce lutteur russe à moustache et à la barbe. Comment il s'appelle, bordel?
C'est toujours les pires. C'est.
Ah merde.
Zangief.
Bravo! Allez! Vous avez un point chacun, c'est formidable. Ouais. Donc 4 et 3, on vous gardera les points.
J'ai trouvé les plus durs.
Ouais. merci à tous, merci à tous les auditeurs qui ont proposé vos questions. Par contre, maintenant, je suis à poil. Donc, au niveau questions, il vous en faut d'autres. Questions. Et ce sera donc des questions, des petites questions à chaque épisode. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Alors là, je suis parti à la découverte de beaucoup, beaucoup de séries. Donc j'en ai vraiment bouffé pas mal. Et il y en a une qui a retenu, enfin, j'en parlerai à mon avis les semaines prochaines des autres. Mais la première qui a retenu mon attention, c'est Louis, L-O-U-I-E. C'est une série, drôle, une comédie, en fait, américaine. Pour l'instant, il y a une saison, donc il y a 13 épisodes qui sont sortis. C'est assez court, c'est très drôle. Donc c'est dans la veine un petit peu de Seinfeld, c'est que c'est un stand-up comédien. Donc on le voit un peu en stand-up et après on voit sa vie. Mmh. Et c'est très drôle, c'est très cynique, c'est très noir. Ça parle beaucoup de choses de la vie. Ça parle quand même de la vie en général, mais vraiment extrêmement drôle. Passer le premier épisode qui est un peu caricatural, le pilote qui en fait un peu trop. Mais moi vraiment, je suis vraiment devenu accro à cette série, Louis. L-O-U-I-E.
Patrick.
Moi, sorti de Castlevania oblige, donc j'ai passé un petit peu de temps, je me suis en mode vampire on. Donc voilà, et j'enchaînais sur une des sorties vidéo, moi, que je voulais pas louper, c'est Nosferatu Fantôme de la Nuit, qui est ressorti en vidéo avec le légendaire Klaus Kinski, avec Adjani, avec Bruno Gantz. C'est un film de Herzog, de 80, qui a été réédité donc en DVD et en Blu-ray. Moi, je l'ai pris en HD, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un beau travail sur l'image. On retrouve vraiment la patte graphique de l'époque. Enfin, c'est un film qui est vraiment vraiment intéressant dans toute l'histoire du film de vampire, qui a vraiment qui présente le vampire vraiment comme une victime, avec un Kinski qui est juste fabuleux. Seul bémol sur cette édition, c'est qu'on n'a qu'une piste audio, la piste française.
C'est un peu dommage.
Bon, c'est rattrapé parce qu'il y a quelques bonus rigolos, notamment sur la galette HD. Donc voilà, je le recommande, le Nosferatu, sauf si on a envie de voir la VO, là c'est plus compliqué à trouver.
Voilà. Moi je rattrape, hein, c'est pas tout neuf, c'est pas tout jeune, mais je suis en train de rattraper et de regarder enfin Hérocorp de Simon Astier.
Ah ouais, j'en suis
intéressant ça.
Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai fini la première saison, je suis sur la deuxième qui a bénéficié de beaucoup plus de moyens que la première. Mais la première, c'est le truc sympa, c'est hyper sympathique.
C'est cool, ouais.
On a envie d'aimer Hérocorp, même si c'est
bourré
de petits défauts, de petites longueurs et tout ça, mais on sent que c'est fait. C'est très sincère comme travail et vraiment vraiment j'aime beaucoup. Voilà, on retrouve la patte des Astier d'une manière générale et voilà. Bon, bref, Hérocorp, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous deux. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.